Chers amis auditeurs, auditrices, bonsoir. Les journées sont caniculaires et le soir ici au studio de Radio Galère, une nouvelle émission d'enquête d'un cinéma indépendant. 88.4 MHz de quelques événements sans signification. Casablanca, le Maroc, en 1973. Un réalisateur prépare un tournage. Il désire prendre en charge le cinéma de son pays. Avec son équipe, il parcourt les rues de la ville. Ils interrogent les passants sur ce que pourrait et devrait être le cinéma de leur pays. Les membres de l'équipe de tournage discutent à leur tour et s'efforcent de construire une théorie de l'indépendance du cinéma national entre les expérimentations formelles et les représentations sociales. Le film a été censuré dans les années 70. Ce premier film du cinéaste marocain Mustapha Derkaoui sort enfin de l'oubli. D'abord présenté à la Berlinale cette année pour la 30e édition du Festival international du film documentaire à Marseille, il reçoit le prix du CNAM et du public. Le mois de mars dernier, il a été montré également au Festival international du film de Tanger. Le film a été tourné à Casablanca en 1974, interdit et longtemps invisible. Ce premier film du cinéaste Mustapha Derkaoui, aujourd'hui retrouvé et restauré, il sort enfin de l'oubli pour rencontrer son public 45 ans plus tard. Ce soir, nous avons le plaisir de vous présenter l'interview rencontre intégrale avec Sophie Delvalle, cinéaste qui réalise dernièrement, qui finit le montage d'un film documentaire, un film portrait de Mustapha Derkaoui. Nous espérons que ce film sera bientôt présenté courant des mois à venir au Vidéodrome 2 et nous aurons le plaisir de nous revoir bientôt. Bonne émission.
C'est quelque chose d'historique dans l'histoire du cinéma marocain, que autant d'artistes, que autant de musiciens, que autant de techniciens soient engagés dans un film.
Aujourd'hui, on voulait parler de son premier film, Quelques événements sans signification.
Le premier de ces 11 films.
C'est une œuvre avant-gardiste, engagée et libre, qui questionne le rôle du cinéma et des artistes à une période de forte oppression politique.
J'ai fait une école, je suis retourné chez moi. Donc il fallait que je me mette au travail. Et j'ai commencé par me demander qu'est-ce que je peux faire comme film, comme cinéma. Qu'est-ce qui peut intéresser les gens? Parce que le cinéma doit être, les films doivent être faits pour ceux qui les regardent.
بصفة عامة
على الخصوص السينما المغربية. السينما المغربية يجب أن تكون ملتزمة وأنها خصها تعبر على مشاكل الجماهير الكادحة. وهذه المشكلة ماشي مطروحة غير بالنسبة للمغرب فقط ولكنها يمكن تكون مطروحة حتى بالنسبة للعالم الثالث. سينما العالم الثالث فمثلا كنوجدوا بعض الأفلام أمريكا اللاتينية مخرجين شبان. السينما المغربية أنا ما بغيتهاش تكون على الشكل اللي مشات عليه السينما المصريه ديك السينما اللي ديال الفرجه الا بغيتي تقول او السينما ديال التسليه او حتى السينما واحد النوع يمكن انا نستعملو كيستعملوه في المسرح
السينما
اللي كيسميوه الانتيميزم او شي حاجه بحال الحميميه.
Moi, je suis venue en vacances au Maroc retrouver une amie. J'habitais Lisbonne à l'époque, je faisais de la radio et aussi de la mise en scène, et je voulais monter un spectacle avec cette copine qui était prof de théâtre à l'Isadac, qui est une amie d'enfance d'Avignon aussi, et elle était un peu occupée, donc j'avais fait un peu des études de ciné en dehors de la radio, tout ça, et je suis allée au Centre cinématographique marocain, j'ai demandé...
L'Isadac, pour le rappeler, c'est
l'Institut
supérieur des arts dramatiques.
Exactement.
À Rabat, au Maroc.
Donc elle était prof d'interprétation. Et en même temps, elle venait d'être embauchée sur une pièce mise en scène par Nabil Lalou. Donc elle était fort occupée. Donc pas de possibilité de faire un spectacle ensemble, parce qu'on avait déjà fait un spectacle ensemble. Donc je suis allée au cinématographique marocain et j'ai rencontré un des fonctionnaires. Je lui ai dit, ben voilà, moi je lui ai donné un peu mon CV, j'avais 24 ans. Je lui ai dit, j'aimerais bien faire un stage, être sur un film. Et il m'a embauchée comme photographe de plateau et assistante script. Donc c'était un film de Mohamed Abbasi, c'était super chouette. On était dans l'Atlas, le Moyen Atlas, des beaux paysages, une équipe marocaine. J'ai appris énormément de choses. Et à la suite de ça, cette même amie, Nathalie Guisset, qui travaillait à l'ISADAC et qui était embauchée sur cette pièce de théâtre, est embauchée par Ahmed Boulane pour faire un rôle dans son court-métrage. Donc je deviens script sur le film d'Ahmed Boulane. Je repars en France après ça, puis je reviens pour un autre projet. On m'appelle pour un projet de musique, parce que j'étais beaucoup en musique aussi. Et à ce moment-là, Zakaria El Amedi, que je rencontre, qui était acteur et aussi décorateur, me présente à Mostafa Derkaoui. Et là, il y a une vraie rencontre. Mostafa, à l'époque, il n'arrivait plus à faire de films. Il était taxé de... Voilà, le cinéaste qui fait des films élitistes, trop intelligents, que personne ne comprend, des productions fumeuses. C'était plus du tout ce qu'on voulait faire au Maroc. On voulait...
On est en quelle année ?
Là, on est en 96. En 96, on accueillait les Marocains qui avaient vécu en France, les jeunes. Donc, il y avait en Norvège, tu vois, Nourdine Akmari, il y avait Ismaël Ferroki, il y avait Boulane aussi qui commençait, il y avait toute une génération qui faisait un cinéma différent. Et donc, c'était la vieille génération, plus personne n'avait envie vraiment de croire en ça, dans ce cinéma plus intello, plus marxiste, plus compliqué. Donc, pour vivre, il faisait des téléfilms. Super, c'est un des premiers réalisateurs qui a fait de la télé assez chouette en fait. Et il était prof à la fac. C'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Et sa femme, elle, était maquilleuse, elle avait étudié à Lodz. Et elle faisait des films étrangers. Donc c'est comme ça que la famille vivait. Et Mustapha, ce qui me plaisait, c'est qu'il avait fait Łódź en Pologne. Donc il avait une grande culture de cinéma. Il écrivait énormément de scénarios, donc moi je lisais ces scénarios qui n'étaient pas encore en train d'être faits, et on l'aidait avec Zakaria à trouver des possibilités de... Ben voilà, on l'assistait, on était les jeunes assistants, je veux dire, on l'accompagnait dans ses déboires. Et à ce moment-là, ça a été un tournant pour lui, parce qu'il est arrivé avec un distributeur et des acteurs connus à faire des films populaires, des grosses comédies, qui ont eu un succès incroyable au Maroc. Donc il a fait des films vraiment des comédies. Et là, c'est plus du tout les mêmes dispositifs, c'est plus du tout le même cinéma qu'il fait. Il est plus dans ses films, il n'y a plus de mise en abîme, il n'y a plus de miroir, il n'y a plus de poésie. Enfin, c'est plus du tout la même chose. Mais une grande technicité, des plans très complexes toujours, parce que ça, il a vraiment un savoir-faire assez unique. Et en même temps, une radicalité dans le propos. Il balance sur la société marocaine, il travaille sur la nuit, il travaille avec des prostituées, il travaille dans les bars. Enfin, il garde ses lieux emblématiques, il garde ses sujets, mais c'est la forme qui change, c'est de la comédie. Et c'est très marocain, ça peut être même trivial, on lui a reproché ça. Il va même dans la vulgarité, il n'en a pas peur. Mais du coup, il a contre-courant, parce qu'à une époque où le cinéma marocain s'ouvre avec les binationaux sur un marché international, lui, il est trop marocain, il est trop populaire, et ça passe pas non plus les frontières. Donc il arrive à vraiment avoir un succès sur son territoire, ce qu'il a toujours voulu, mais en même temps, son savoir-faire d'auteur, de cinéaste, enfin, d'auteur, n'est pas reconnu à l'étranger. Et
toi ?
Moi, je l'assiste toujours, je fais des films avec lui.
Comment tu te débrouilles avec cette langue, justement,
eh ben,
qui est
ça, c'est
assez hermétique, le langage populaire marocain
Ça, c'est le truc, c'est que quand même, les équipes, elles parlent français. On est dans un pays où quand même, ils sont francophones. Et moi, pour les dialogues, j'avais toujours un assistant, une assistante pour m'aider à bien repérer, parce que j'étais script. Mais au demeurant, moi, je m'occupais de tout ce qui était aussi raccord. Donc, il n'y avait pas que l'histoire du dialogue. Après, faire un film avec Mustapha, il contrôle tout. Je veux dire, j'avais une position, j'ai envie de dire, plus de... d'assistant metteur en scène que de script qui s'occupe des... Mais bon, ça a été une grande aventure quand même. La langue marocaine, il y a pas mal de scripts françaises qui travaillent avec des auteurs marocains, on y arrive quand même.
Les
scripts sont en français, hein, ils sont traduits en français. Il y a
les
une
acteurs
partie,
aussi, hein. ils sont bilingues.
Ouais.
Souvent.
Tout le monde. Hein.
Voilà.
On est à Casa, enfin, les Casablancais globalement sont bilingues. Et j'ai envie de dire Mustapha, évidemment, il parle d'Arija, il est marocain, mais il pense quelque part en français. Enfin, il lit en français, il écrit en français. Il a étudié en français, il a fait le lycée français, donc il a une formation, j'ai envie de dire, où le français, c'est quand même sa langue de travail aussi. Pourtant, il travaille la langue marocaine, ses films, moi, je ne le maîtrise pas, mais d'après ce que j'entends, est-ce que il a un bon niveau, j'ai envie de dire, d'écriture de dialogue en marocain. Ben, ça, c'est plus toi qui pourras moi.
Oui, à ce niveau...
De langage, en fait.
Oui, le langage, les langues, en tout cas, sont souvent des frontières solides.
En tout cas, Mustapha, lui...
C'est ça ce que tu dis en témoignant que ce genre de production que Mustapha Drakhawi et d'autres dans différents pays aussi, dans leur langue locale, sont difficilement exportables.
C'est le... Oui.
Ouais. Et donc, ça reste de la comédie sociale.
Moi, je ne suis pas sûre que c'est la langue aussi. Je pense que quand...
Oui.
Ce qui me semble...
Oula, alors on ne sait pas si c'est le 14 juillet...
Ou le 16.
On est le 16 juillet...
Voilà. Je ne suis pas sûre que ça soit une question de langue, en fait. C'est une question de production. On voit bien, en fait, le Kiarostami, quand il fait un film en Iran, et Kiarostami qui est coproduit par les Français, ça ne donne pas le même film. Une production française, elle va demander de faire un film un peu... qui va passer pour le goût français ou pour le goût Arte. On va avoir un formatage, un lissage selon qui donne l'argent. C'est plutôt pour ça, j'ai envie de dire, que ces comédies, elles... Je vous attends. Tu vois, sur la question, c'est pas, je pense, la question de la langue qui a posé problème pour une exportation. C'est plus vraiment le c'est un film marocain, ça n'a pas été lissé pour passer sur Arte, ça n'a pas été lissé pour une salle française, tu vois, ça n'a pas été coproduit par la France qui aurait donné des certains standards de façon de faire. Moi, je le vois à Cannes, hein, dans les films qui sont coproduits en France par des auteurs iraniens, roumains ou quoi, dès qu'il y a la France, il y a un petit grain, quoi, tu vois. Il y a une petite patine française, Arte, ou je sais pas. C'est ça que je veux dire, c'était brut, avec du politiquement pas correct, avec aussi des contextes qui sont purement marocains, qui peuvent échapper aussi à un public français ou international. La langue, c'est pas tant... Je veux dire, tu peux utiliser le sous-titre ou quoi, c'est... Et puis, au niveau de la langue, je veux dire, Mustapha, il travaille en langue marocaine parce qu'il a toujours voulu construire et faire un cinéma marocain pour le public marocain. C'est ça, sa priorité. C'est pas... Sa priorité, c'est... Tant mieux s'il y a une reconnaissance internationale et ça voyage et ça devient universel, mais je veux dire, c'est construire un cinéma national.
Il y a des cinémas au Maroc ?
À l'époque, il y en avait beaucoup plus. En 96, il y avait...
380 salles, sans citer les arts, les cinémas, les salles d'art et d'essai. Comme la
les ciné-clubs.
Ouais. Les ciné-clubs.
Parce qu'il y a eu un mouvement de ciné-clubs très fort dans les années 70-80 qui n'existe plus. Ouais. Et il y avait des salles, et maintenant, les salles...
Il y en a peut-être 7 à l'échelle de...
Ouais, hein. Ils disaient 50... Dans mon film, ils disaient 54 avec les multiplex.
Ouais, avec les...
Et les prix des places, c'est cher par rapport au salaire moyen de la population.
Il faut voir surtout la programmation.
Bah, oui, quand même. Un multiplex, c'est pas donné, en fait. Ouais.
Oui. Mais du coup, quand vous dites que les films de Derkaoui avaient du succès, ça représente combien de spectateurs ?
Ça, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça a fait des records en tout cas. Je crois que le film le plus vu, c'est Casa by Night. Encore maintenant. C'est le film qui a, je sais pas, c'est presque le million ou un truc du genre. Ça, je peux pas. Faudra aller vérifier les chiffres. Mais ça a été vrai. C'est le film à ce jour qui a fait le plus d'entrées. Tout le monde l'a vu. Et ça se passe la nuit, dans les cabarets. Histoire de corruption. Enfin bon.
Et du coup, il est devenu riche alors ?
Ah, pas du tout. Il est tombé malade, en fait. Alors, l'histoire, c'est que il voulait faire ses films populaires. Ouais. Il voulait faire ses films populaires et à la suite de ça, retourner à un cinéma plus personnel. Et en 2003, il a un AVC. Alors qu'il a déjà eu une aide à la réalisation. Il a eu 1 700 000 dirhams. Donc, il peut faire un film et il a un AVC. Et là, là commencent les problèmes. Le roi prend en charge les frais de santé, mais tout le reste, non. Donc, tout ce qu'il avait un peu comme argent, en dehors de cette aide qu'il n'a jamais touchée, fond. Et,
Le médical ?
Pour le médical, pour la vie en général, quoi. Et ça part assez vite. Donc ensuite, il a des amis qui cotisent pour lui, ses enfants aussi. Donc non, il est dans une nécessité quand même financière. C'est pas quelqu'un qui s'est enrichi avec le cinéma. Il avait fait une faillite en 93 avec le Silence, qui est un court-métrage qui est dans une collection qui s'appelle La guerre du Golfe et après, où il y a plusieurs cinéastes arabes qui ont collaboré. Donc il y a Eddy Souleyman, Nouri Bouzid, il y a lui, et puis j'ai oublié l'autre, bref. Ils sont 4-5 cinéastes du monde arabe qui travaillent sur la question de la guerre du Golfe dans les pays arabes. Et à la suite de ça, il y a une faillite. En fait, c'est un court-métrage dans lequel il a été très rude avec les pays du Golfe, donc on a essayé également d'oublier le film. Non pas de l'interdire, mais de faire en sorte que ça sorte pas. Donc il a beaucoup de problèmes d'argent. Il a pas, les coproducteurs n'ont pas donné l'argent qu'il lui devait, enfin, etc. Donc là il avait pris une grosse claque. Son arrêt pendant des années où il n'a pas pu travailler, il a juste fait des petits téléfilms et un peu la fac. Il s'est refait une santé avec un peu financière. Il s'est remis à flot. Mais à chaque fois, par exemple... Ce qui s'est passé aussi, c'est que Casablanca by Night, avec l'aide à la réalisation qu'il a eue, il n'a pas fait un film, il en a fait deux. Il a fait Casablanca by Night avec le même argent.
En 2004.
Ouais. Donc c'est il a toujours pris des risques de production avec un retour. Si, quand même des ventes à la télévision, des choses comme ça, mais à partir de sa maladie, non, ça a été dur, il n'y avait plus d'argent.
Il a arrêté de faire des films.
Alors, mon film, c'est un peu... On part de là, c'est-à-dire que donc il est malade en 2003. Moi, je le revois quelques fois à l'hôpital. Et je reviens... Parce que j'avais fini un film sur des artistes marocains en 2014. Donc en 2014, je le vois. Il est encore à l'hôpital. Il veut sortir de l'hôpital. Il en peut plus d'être dans cet endroit-là. Et il me dit, Sophie, il faut que tu m'aides avec Zakaria, donc le fameux Zakaria Alamadi, il faut que vous m'aidiez, il faut que je refasse un film, il faut que je sorte de cet hôpital, il faut que tu sois script, il faut que tu fasses la production, il faut. Je dis, écoute, oui, je vais faire tout ça, mais je pense que ça serait une bonne idée. Enfin, moi, j'ai envie, maintenant, je suis réalisatrice, j'aimerais bien faire un film sur toi qui va faire, refaire un film. Tu as cette aide de 1 700 000 dirhams. Donc pour moi, en fait, il était à l'hôpital, mais il fallait l'aider entre amis pour organiser le tournage. Parce qu'à l'hôpital, il n'y a pas de secrétaire, il n'y a pas d'ordinateur ou à peine. Enfin, il n'y a rien pour travailler. Il avait qu'une main pour pouvoir taper. Enfin, on va t'aider et puis tu vas faire ton film et tout ira bien. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est rendu compte avec Zakaria qu'il n'arrivait pas trop à écrire ce film à l'hôpital. Donc il fallait le sortir de l'hôpital. Et une fois sorti de l'hôpital, il n'arrivait toujours pas bien à écrire le film. Donc j'ai dû réécrire au fur et à mesure le projet. parce que c'était pas ce que j'avais prévu. Je pensais qu'on allait très vite avoir son 12e film, son 12e long métrage, et en fait ça a pris beaucoup plus de temps. Il est encore en écriture de ce film là. C'est un film un peu qui n'arrive pas encore à sortir, qui met beaucoup de temps à... La gestation est très longue, en fait, pour ce film-là. Donc, dans mon film, je raconte aussi pourquoi c'est très long et comment il a souffert de toutes ces interdictions et de... un peu l'interdiction, quels échos ça a eu vraiment dans sa chair, en fait. Et comment ça...
C'est quoi, quand tu parles d'interdiction ?
Bah, l'interdiction, c'est... La première interdiction auquel il fait face, c'est de quelques événements sans signification. Donc en 1974, donc c'est le film qui a été projeté au FID. Il y a Berlin, il y a Bologne. De quelques événements sans signification, c'est un film qui fait juste après ses études en Pologne. Donc la Pologne, c'est un grand espace de liberté pour lui, de formation intellectuelle. Et puis d'expérimentation et de radicalité, parce que les Polonais, ils étaient dans une société communiste, mais ils y allaient à fond. Donc pour lui, voilà, c'était un modèle, quoi. On pouvait faire les choses, on pouvait dire, même si après on avait quelques soucis. Voilà, on était encore dans l'école, et à l'école, il n'y avait pas de censure du tout, donc... Et puis il fréquentait des endroits où on disait les choses librement, donc il revient en...
Il est resté proche d'étudiants de l'école de Lodz ?
Ouais, quand même, ouais. Un peu, avec la maladie, moins, mais si, quand même, ils sont restés un peu en contact, ouais. Il y a toute une bande que j'ai rencontrée.
Mais pas des Marocains, du coup ?
Un Marocain, s'il y avait l'ACTA, son frère est parti avec lui. Son frère a fait des études d'image, hein, chef op. Il est parti avec sa femme, qui a fait des études de maquillage, qui a passé aussi son bac en Pologne. Il y avait qui de Marocains ? Non, c'était cette génération-là. Mais après, c'était une école internationale. Il y avait des Iraniens, des Mexicains, des Bulgares, des Français, un Portugais. Enfin, il y avait vraiment des gens de partout.
C'est l'école qu'a faite Roman Polanski ?
Oui, Kieslowski. Il était dans les mêmes années que Kieslowski. Et qui a envoyé aussi beaucoup de gens aux États-Unis.
Et les enseignants, tu sais qui c'était ?
J'aurais dû re-regarder.
Dans l'une qu'on voit dans le film qu'elle réalise Sophie, c'est la directrice, l'actuelle directrice, dans cette rencontre.
Alors, c'est pas la directrice, c'est la secrétaire qui est là depuis les années 60. Enfin, la secrétaire, donc c'est pas la directrice pédagogique, mais elle est là depuis les années 60-70. Elle est arrivée, elle avait 20 ans, et elle est toujours là.
Quand on le voit en train de l'embrasser, très touché, de la revoir enfin et de la reconnaître, presque, on imagine que c'était son ancien professeur, une de ses profs.
Ah oui, bah non.
Enseignait à cette époque.
Oui, non, c'est ce qu'elle dit. Elle dit, mais qui était là ? Quels étaient les doyens ? Donc il y avait Kluba, oui, qui est un cinéaste
connu. C'est vrai, elle sort tous les registres et on voit le... Voilà. Oui. Justement, Polanski, il est dans les mêmes classes que lui.
Non, celle d'avant, oui. Je crois qu'il n'a même pas eu son diplôme, mais d'avant. Kieslowski avait un an ou d'écart.
Et les enseignants, c'était des cinéastes russes
Non, polonais.
Polonais.
Beaucoup de Polonais juifs. C'était avant que les Juifs partent une nouvelle fois de Pologne. Et c'était une école 7 ans quand même d'études, hein, donc on passe par le documentaire aussi, c'est une des choses un peu spéciales. Beaucoup de cours de dramaturgie. Non, c'est des études, je crois, très complètes de philosophie, d'esthétique. Ils travaillaient bien, avec des moyens, des moyens techniques. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'avant de faire cette école-là, Mustapha, il avait fait l'IDEC un an, mais ça ne lui avait pas trop... Il s'était barré, quoi. Il s'était barré parce qu'il ne pouvait pas faire son film. Il n'y avait pas une question aussi pratique. La première année, c'était plus du... Tu tripotes, mais tu ne vas pas jusqu'au bout d'un film. Lui, il voulait faire un film, voilà. Donc on ne le suivait pas là-dessus, il s'est barré.
Donc c'est le premier film qu'il réalise au Maroc après ses études.
Ouais, alors moi j'ai vu les... On est allé en Pologne, donc j'ai vu les courts-métrages. Il a fait des courts-métrages en Pologne. Et des études aussi, comme ils appellent. Donc j'ai vu un peu vu tout ça. Et il fait ce premier... Et dans ses courts-métrages, il y a vraiment des esquisses de quelques événements. On voit déjà que c'est préparé, en fait, qu'il y a cette manière de... Un peu ce brouhaha, ces coupes, comment on détourne le discours, c'est-à-dire un discours, j'ai envie de dire, on fait intervenir de la vie au milieu. On est beaucoup aussi sur... on est vraiment déjà sur une étude de la musicalité à travers les plans et de comment monter ça pour que ça soit comme de la musique, en fait. Et puis le discours, enfin, qu'est-ce qu'on fait d'un discours militant, comment on le met en scène pour que ça soit pas juste un discours, mais comment on le renverse, tout ça. Donc tout ça, c'est assez étudié déjà là. Donc il arrive en Pologne avec au Maroc avec l'idée de construire un cinéma national. C'était vraiment dans le but, voilà, on a fait des études à l'étranger, mais c'est pour venir au pays. Voilà, on est après l'époque coloniale, donc il n'y a pas encore vraiment d'image marocaine. Donc c'est vraiment leur truc, c'est ça, quoi. On va construire le cinéma national. Il n'y a pas encore le CCM, tout ça. Donc c'est vraiment, on va y aller, on va construire ça. Et comme il n'y a pas de fonds, il n'y a pas de rond, il n'y a pas d'argent, c'est les artistes marocains qui, par contre, ont un peu de fortune, un peu de renommée, qui vendent des tableaux. Et l'argent collecté va à la production du film. Donc là, c'est très particulier quand même. C'est-à-dire que c'était un effort national fait par des artistes, en fait. Des artistes qui soutiennent les cinéastes pour produire une œuvre collective. Ça, c'est très atypique et très intéressant quand même. C'est pas fait beaucoup, je pense. Et donc il y arrive, il y va à fond sur son film. Pendant la production de ce film-là, il y a déjà une possibilité. Le pouvoir se dit, mais on va peut-être pas les laisser faire. Et puis il y a quelqu'un qui intervient en disant non, mais laissons faire. Et puis si c'est à censurer ou à couper ou à interdire, on verra une fois fait. Faisons en sorte que laissons faire le film se faire. Et puis ça rate pas. Quand le film est montré à la commission de censure, et ben il est même pas censuré, il est interdit. C'est-à-dire que s'il est montré au Maroc ou à l'extérieur du Maroc, et ben c'est la prison.
Et qu'est-ce qui dérange ?
Ben il y a à chaque fois, c'est pas la même version. Le film est jugé inopportun dans le contexte dans lequel vit le Maroc actuellement. Donc c'est pas ça qu'on a envie de montrer du Maroc aux Marocains et en dehors du Maroc. Pourquoi ? Parce que ça se passe dans des bars. Où ça fume, ça picole, et voilà. Parce qu'on occupe l'espace public en posant des questions sur qu'est-ce que le cinéma, et parce que c'est des marxistes qui parlent, parce que on ne voit jamais la photo du roi. Et la dernière raison, peut-être un peu plus forte, c'est que l'histoire, au final, c'est un ouvrier qui tue son patron. Et que c'est c'est que le pouvoir en place, il voit une métaphore de tuer le chef, en fait. C'est pas le patron, mais c'est tuer le chef. Donc on est dans un contexte où il y a déjà eu des tentatives d'assassinat de Hassan II. C'est pas terrible, en fait. Et puis il y a une histoire aussi d'un ratage, parce qu'en fait ces cinéastes qui sont pavés de bonnes intentions, finalement c'est des collaborateurs de la finissent par être des collaborateurs de la police. Donc il y a tout un truc, en fait, qui est trop subversif et qui n'est pas la bonne image, quoi, qui n'est pas le bon truc. Ça ne sert pas le pouvoir en place, ce n'est pas l'image qu'on veut donner, c'est trop c'est pas ça, voilà, on ne veut pas ce cinéma.
Du coup, il n'est pas vu
Il est vu une fois. Il part au premier festival du film de Paris en 75, qui organise. Voilà. C'est Henri Chapier qui organise ce festival, et c'est un grand festival international où il y a Salo, les 120 jours de Sodome qui sont projetés, Vol au-dessus d'un coucou, La soif du mal dans sa version, le montage d'Orson Welles, le montage du réalisateur, des grands films en fait. Et le film est remarqué. On parle de l'underground marocain, on parle du Cassavetes marocain. Enfin, je veux dire, c'est un film même qui il est approché pour être distribué en France. C'est un film qui marque. Parce que c'est, on voit une modernité qu'on ne pensait pas possible au Maroc. Enfin, on voit autre chose. Il y a quelque chose vraiment qui se passe. Mais le film est tout de suite oublié, en fait. Il est oublié et pas vu. L'interdiction va durer 27 ans. Et quand elle se lève... Eh bien, il n'y a personne pour sortir en salle le film. Et puis, ensuite, carrément, on perd la trace des négatifs parce que le CCM, le Centre Cinématographique Marocain, ne rapatrie pas. Normalement, ils avaient fait un travail pour rapatrier tous les négatifs qui étaient dans les labos en Europe. Il ne le fait pas pour celui-ci. Et le laboratoire qui s'appelait Photofilm Madrid fait faillite, donc on ne sait pas où, pendant un temps, nous quand on est arrivé avec Léa, on ne savait pas où était passé le négatif. Et on a su que Photofilm, le stock avait été repris par la Filmoteca de Madrid et de Catalogne. Donc à un moment, on a su que c'était plutôt en Catalogne, parce que le film avait été de 16 mm gonflé en 35, donc c'était les Catalans qui avaient ça. Et les Catalans n'ont pas tout de suite retrouvé parce que les titres, le titre était en arabe et non pas en français. Il a fallu faire un petite recherche. Et quand ils ont vu en fait le film, ils ont dit « Ah non, mais nous, on le restaure, en fait, ça nous intéresse vraiment. » Des bijoux comme ça, des joyaux comme ça, on n'en a pas souvent, nous on le fait. Donc ils ont vraiment vu la qualité artistique... Donc c'était très bien parce que Léa, elle imaginait aller chercher de l'argent à gauche, à droite... Nous, on avait essayé de sonder le CCM. On n'a pas d'argent, ils n'ont pas une politique de restauration patrimoniale, ça n'existe pas. Tous les autres films avant l'arrivée du numérique qui sont sur négatif ne sont pas numérisés, ne sont pas ressortis en pellicule, donc il n'y a pas de travail de ressortie des films anciens. Donc ça a été vraiment la bonne nouvelle parce qu'ils ont, ont pris le film et ils l'ont restauré. Et restauré et numérisé. Dans des conditions excellentes. En vraiment en se posant les questions sur l'étalonnage, le son. Même il y avait des petites versions différentes sur certaines scènes. Ils ont vraiment questionné qu'est-ce qu'ils allaient faire, c'était bien. C'est incroyable. Et du coup, après, on a vu le film en première à Berlin. Ça aussi, c'était assez incroyable de voir toute cette... renaissance d'un film, en fait.
Et il le prend comment, la renaissance du film,
Mustapha?
Ouais.
Ah bah pour lui, c'est miraculeux, c'est génial. Enfin, je sais pas, Léa, elle est mieux pour ça, pour avoir les mots justes, parce qu'elle a travaillé spécifiquement là-dessus, mais c'est... ça faudrait retrouver... Lui, pour lui, ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire, quoi, de revoir une renaissance de film, une restauration. Enfin, voilà, ça a été que du... On lui avait dit que ça serait possible et puis il l'a vu de son vivant, donc ça c'est super.
Et au Maroc, il est reçu comment?
Ça a été un événement génial de le voir projeté au Festival National du Film de Tanger. Donc c'est un festival, c'est un peu les Césars en fait, ou les Oscars. Et toute la profession était... la plupart des gens ne connaissent... Alors il y avait ceux qui avaient participé, les anciens, qui revoyaient... un film dans lequel ils avaient joué ou participé à la vingtaine, quoi. Donc eux, ils étaient très touchés, ils connaissaient le film. Et il y a toute une génération qui ne connaissait pas. Et qui a... je pense qu'il s'est senti très modeste de voir un film comme ça, fait en 74, avec cette modernité-là, tout ce que comporte le film, en fait. D'audacieux, de radical, de questionnant, tout le savoir-faire. Hein, c'est extraordinaire.
Parce que ces autres films n'étaient pas aussi radicaux.
Si, mais ils les ont pas vus non plus, puisqu'on ne peut plus les voir. Donc il y a toute une génération qui ne connaît en fait que les trois comédies. Parce qu'elles ont été faites.
Et les autres, pourquoi ils ont été aussi censurés?
Non, mais si tu veux, là c'est. Il y a plusieurs formes pour un... Enfin, il y a plusieurs faits, c'est-à-dire tu peux être interdit, on ne voit pas tes films. Tes films, s'ils ne sont pas numérisés et juste sur négatif, eh ben, tu ne peux pas les voir. Il n'y a pas de support de visionnage. Tu vois ce que je veux dire ? Enfin, voilà, on ne peut pas les voir. Et sinon, on ne te donne pas d'argent pour... Tu ne fais pas des films. Donc c'est ça qui se passe pour Mustapha, quoi. Les trois derniers films sont plus récents, donc la génération l'a vu au cinéma, mais les autres films qui datent de 83, enfin tous les années 80 jusqu'en 92, il y a une décennie comme ça, c'est encore invisible. Alors on peut sur internet, pour les arabophones, il y en a quand même quelques-uns sur internet, mais sinon c'est pas sous-titré.
C'est quoi le moteur de recherche YouTube?
Bah, tu tapes titre provisoire, cinéma, je crois. Enfin, cinéma, mais genre marrant. Cinéma.ma. Là, tu as titre provisoire, tu as Les Beaux Jours de Sherazade. Mes fictions premières n'est pas sur internet. Le silence non plus. Jeux au passé non plus. La grande allégorie non plus. Les sept portes de la nuit non plus.
Et toi, tu les as vues?
Ouais. Les sept portes de la nuit, je l'ai pas vu. Il y en a qu'un, je l'ai pas vu.
Et ils sont comment par rapport à...
par rapport à de quelques éléments, ça a rien à voir. Enfin, ça a rien à voir. On n'est plus du tout sur du gros plan. On est sur beaucoup plus de travelling et de plans complexes. Ouais, fait avec du travail, donc pas à l'épaule. On est aussi sur un... Plus sur de l'image... Enfin, comment dire... On est plus sur des dispositifs sur l'inconscient, en fait, avec beaucoup d'affabulation ou de surréalisme, hein, un peu type félinien, plutôt. Parfois... Ouais, Tarkovski, je dirais plutôt... Ça, c'est mon film.
C'est provisoire. Cinéma Galerie.
Non, ça, c'est mon film. C'est la bande-son de mon film.
Ah, d'accord.
Je sais pas pourquoi.
Il est dessous. Oui.
Je reconnais.
C'est lancé avant le YouTube.
Et il accompagne la ressortie du film.
C'est ce qui est prévu, ouais. En distribution, c'est sortir les deux. Il y a une distributrice qui est intéressée par les deux films. Donc ça, c'est Zakaria qui pousse le fauteuil. Donc ça, c'est les films... Dans le générique, j'ai utilisé les films populaires.
C'est les mœurs marocaines, ils sont comme
oui,
ça.
C'est le
Maroc. On ne tolère pas de montrer ça à l'image dans le cinéma,
bah, c'est tout le
dans
problème.
Le théâtre.
C'est, en fait, moi, c'est ce que j'ai compris avec Derkaou, c'était que faire du cinéma, c'est moderne pour un Marocain. C'est la représentation, on est sur une culture islamique qui ne montre pas dans l'art. Donc faire du cinéma... Se montrer, se regarder, le miroir, tout ça, c'est extrêmement moderne, c'est extrêmement politique, c'est extrêmement radical. C'est représenter, c'est vraiment c'est un acte hyper fort, c'est la modernité, une coupure avec ce qu'il y a avant, quoi. Mais ça, je l'ai compris vraiment Sur plein de choses, il y a une scène dans le film où je comprends pas pourquoi il va être censuré, parce qu'il dit je vais avoir de la poussière dans les yeux, je suis mort. Et je comprenais pas qu'est-ce qui posait problème, parce que pour nous, on représente tout, surtout les Français, on a pas. Enfin, je veux dire. On se pose pas des questions comme ça. Enfin, moi, j'avais vraiment du mal. Donc, vraiment du mal à me dire mais pourquoi ça va poser problème de représenter. Mais je crois que c'est toute la question du cinéma. C'est qu'on ne se représente pas, on ne se montre pas, ça ne se fait pas, quoi. Il y a la culture du voile, il y a la culture de l'abstraction, mais vraiment purement, c'est quelque chose se voir, donc c'était quelque chose un acte profondément moderne.
Et toi, Wahib, qui est marocain, qu'est-ce que tu en penses de cette question ?
Bah, ça me renvoie justement aux questions. Quand j'ai discuté avec Ali Safi, je lui dis mais qu'est-ce qui t'intéresse à fouiller dans le portrait, dans le cinéma de Ahmed Bouanani ? Qu'est-ce qui est le plus essentiel qu'est-ce qui fait objet de recherche ? Il me dit mais c'est la disparition de l'icône. Tu comprends pas, Wahib, que nous avons ce pays avant d'être arabophone, il était à Mazir, il était berbère, il était déjà. Et toute l'iconographie, tous ces langages ont été disloqués, et on a fait disparaître tout l'origine de toute cette liberté qui existait avant ces gens-là. Quand l'arabe et le musulman est arrivé, on les a privés de leur liberté originale, on a arrêté le cours de leur histoire d'émancipation, on leur a fait perdre leur liberté, et tout ça a disparu. On ne sait plus qui c'est qui a hérité de ça, s'il y en a encore des héritiers, ils sont où ? Est-ce que c'est des Allemands, parce qu'ils ont conquis ce pays avant les Français, et ils les gardent précieusement ? Est-ce que c'est encore en cours de recherche ? Ils sont où, cette icône ? Et c'est ça l'objet de tout le travail d'Ahmed Bouanani, qui se demande pourquoi sa grand-mère tatouée, il n'a jamais plus revu ce tatouage nulle part. Est-ce que ça a été une interdiction ? Voilà, donc c'est qu'il y a une part de liberté qui a complètement été... c'est comme si on n'était pas libre avant, tu vois. C'est comme si on était devenu libre après l'occupation, après la venue du blanc, quoi. Qu'on s'est émancipé, quoi. Qu'on s'est affranchi, quoi. Mais c'est ça, quoi. Et juste, voilà. Et nos institutions d'après indépendance ou pendant et jusqu'à continue encore dans ces empêchements. Et moi, certes, il y a des phrases terribles dans l'hôpital, dans le livre d'Ahmed Bouanani, qui dit « Regardez comment est-ce que nos générations aujourd'hui ne savent même pas comment s'appellent, par exemple, des herbes qu'on utilise en cuisine, comme hennos, comme... » Voilà. On ne sait même pas nommer des choses qu'on ingurgite, qui nous nourrissent, quoi. On ne sait pas les nommer, donc on ingurgisse des choses sans savoir qu'est-ce que c'est en termes alimentaires, je dis, sans parler du reste, quoi. Il y a quelque chose de grave, quoi, ce qui nous arrive culturellement parlant. Et peut-être, je ne sais pas si le cinéma serait un instrument pour se réapproprier tout ça,
C'est vrai qu'il y a des artistes qui travaillent vraiment en ce moment au Maroc là-dessus, ou des cinéastes et des... Voilà, d'aller chercher Parce qu'en plus, il n'y a même pas, j'ai envie de dire, une culture, comme tu parlais de patrimoine, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une culture de la conservation, il n'y a pas une culture de la transmission du patrimoine. Et donc, il y a une génération, l'atelier de l'Observatoire, c'est vraiment, qui sont occupés de la restauration, c'est vraiment leur truc, quoi, d'aller rechercher l'histoire partout où elle est, les traces, la mémoire, d'aller créer du, j'ai envie de dire, des discussions, des échanges entre les gens pour de l'intelligence, voilà, retrouver cette intelligence. Tu parles de nommer, oui, de nommer et de montrer, de faire cet effort-là. Et le cinéma, oui, effectivement, c'est aller faire document, en fait. Mais c'est aussi se montrer et avoir cette capacité à se regarder là où on en est. Là où on en est, et le pouvoir en place a toujours du mal à... Ou même les gens eux-mêmes à se dire, ben non, notre société, elle en est là, elle est comme ci, elle est comme ça, avec ses failles, avec sa beauté ou sa laideur. C'est compliqué.
Et le fait que toi et Léa, vous soyez deux femmes françaises et qui travaillent à la redécouverte de son cinéma, c'est significatif ou c'est un hasard?
C'est un peu particulier parce que moi, j'étais avec Zakaria, donc il n'y avait pas qu'une Française, c'était une amitié. Et moi, j'ai appris le cinéma au Maroc, j'ai un peu un parcours différent parce que j'ai commencé à travailler... j'ai appris dans un pays du Sud, quoi.
Et pourquoi t'es allée...
Bah, parce que j'étais jeune, ça me plaisait. J'avais pas spécialement envie d'être dans une école en France, j'avais envie de faire autre chose. Et Léa, elle était dans une structure marocaine aussi. Peut-être que nous, on a cette culture aussi du patrimoine, je sais pas, donc ça nous semble plus important de sauvegarder les choses, je sais pas. Hein. Et je pense que les Marocains, ils se servent un peu de ça dans le sens où on a cette capacité d'aller chercher de l'argent, ailleurs, donc ça. Ça les intéresse. Après, ça les questionne aussi. Pourquoi personne au Maroc s'en est emparé? Oui, ça les questionne. On a eu à faire face à ça. Oui, c'est encore les Français. C'est un peu leur problème. Moi, je veux dire, avec Moustapha, c'est une histoire d'amitié. Donc, c'est pas une question de... Oui, je suis française. Après, mon film, il est en français. C'est à la télé. On a été financé par la télé marocaine. Ça a été un enjeu, la langue. Ouais. Parce que avec Moustapha, on parle en français. Moi, je parle pas bien d'Arija. Et puis même lui, il s'exprime plus en français. Donc le film est en français. Ça a posé un problème. Ouais. Ça a posé... Le public marocain va pas pouvoir le voir parce que... en même temps, au Maroc, il y a un public francophone marocain, donc c'est ça, c'est des vraies questions. Hein. Mais en même temps, depuis que j'ai 25 ans, j'ai vachement fait de trucs pour que Moustapha soit connu en France, et pour moi, c'était important qu'il ait une reconnaissance internationale. Enfin, qu'il ait sa place d'auteur dans le monde des cinéastes, quoi. Enfin, un cinéaste, point barre, pas uniquement cantonné dans son pays.
Et c'est quoi le...
Mais après, nous, la production de mon film, elle est aussi marocaine. J'ai un producteur marocain, j'ai de l'argent marocain, pas beaucoup, mais j'en ai. C'est un film aussi polonais, on a un peu d'argent polonais. Après, le gros, ça a été... quand même la France, parce qu'on est en tant que Française, j'ai pu avec la production trouver de l'argent français, mais en région d'ailleurs. Mais ça a été aussi très dur en France de vendre mon film parce que les gens connaissaient pas cet auteur, ce cinéaste. Donc, si on le connaît pas, c'est pas intéressant. Donc par exemple Arte, c'est pas possible d'aller le financer chez Arte, c'est pas possible de le financer chez Ciné Plus alors qu'ils auraient dû le prendre. Donc voilà, il y a eu quand même une bataille aussi à mener en France pour faire valoir l'intérêt du film et de cette cinématographie là.
On va voir la rencontre de Léa Morin, la restauratrice du film. avec le frère de Derkaoui dans une...
Chez
après, ouais, pour t'expliquer hein, tout ce qui s'est passé un peu ces derniers mois autour du film, hein, de quelques événements. La plus importante, je crois, c'est de savoir que les négatifs sont bien à la Filmoteca de Catalogna.
D'accord. Je t'avais montré ça, le quotidien de Paris, mercredi 16 novembre 1973, au Festival de Paris, Mustapha Derkaoui, ou le cinéma underground marocain. Henri Chapier. C'était le directeur du festival.
Premier long métrage de Mustapha Derkaoui.
Il y a le ministre qui vient, qui arrive à un choc, ministre de l'Information, et il y a Feu Ziani, le directeur du CCM, qui veut nous présenter au ministre. Et Derkaoui, là, ils sont revenus de Pologne, ils ont fait des études, blablabla. Et ils sont en train de faire un film. Alors il dit à Mustapha, et de quoi s'agit-il dans votre film, etc. Il dit, il s'agit d'un type qui travaille au port et qui a un conflit avec son patron et qu'il tue. Il tue son patron. Oh, Ziani, tu sais, j'étais... Au second plan, je voyais Ziani. Et il y a eu une montée de sueur. Ah bon? Chez nous, il y a des ouvriers qui tuent leur patron. Ah ok. Ça y est, c'était foutu. C'était foutu. Voilà pourquoi elle a été interdite au Maroc. Et ailleurs. C'est-à-dire, si vous le montrez encore une fois quelque part, alors là, ça sera la prison. Il en a souffert. Son AVC vient de là.
Ouais.
Où, quand il dit son AVC vient de là?
Bah, je pense que pour moi ça marque le début de la galère, quoi. C'est-à-dire que si tu veux une interdiction, c'est pas juste on interdit ton film et puis tu passes à autre chose, quoi. Tu le vis vraiment dans ton corps, quoi, dans ton esprit. Donc c'est comme un, je veux dire, tu coupes la pellicule, mais enfin on te file aussi toi-même un coup de couteau, hein. Donc toute une carrière comme ça, être empêché, contraint, humilié, désavoué, non reconnu, ça a porté sa croix, entre guillemets, quoi, je veux dire. Donc ça donne, à un moment, voilà, le corps a explosé à l'âge de une petite soixantaine d'années. C'est pas... On voit ça de manière un peu virtuelle, toujours la censure. Le film, voilà, est censuré, c'est horrible, c'est machin, mais les gens qui font les films, ils portent ça. Enfin, là, en ce moment, il y a Oleg Stentsov, il fait sa grève de la faim, il est à moitié mort, nourri de force, parce qu'il ne peut plus faire de films, il est arrêté. Mais je veux dire, Donc, plus, c'est un autre truc. Mais moi, dans mon film, c'est ce que Enfin, c'est ce que dit Crimo et c'est ce que j'ai un peu essayé de travailler. Que c'est pas, ça va beaucoup plus loin que. Enfin, les auteurs portent leurs films, les cinéastes portent leurs films. Donc une interdiction, ça. Peut-être ça lui arrivait à 30 ans, mais pendant 30 ans, il y a eu encore d'autres empêchements qui font que, le corps lâche. Parce qu'il y avait toujours en même temps chez Mustapha, même dans mon film, on le voit bien, cette volonté qui est beaucoup plus forte. Et, voilà, on y va, mais il y a des limites. Non, je crois que c'est quelque chose de terrible. L'image, elle n'est pas que... Enfin, elle est intérieure, donc c'est ça qui arrive à un auteur. C'est lui-même... On lui inflige un supplice, quoi.
Chloé, tu veux peut-être dire un truc? par rapport au film de ton père qui a eu un peu d'histoire similaire, quoi. Tu as vu L'être à la prison ou pas?
Non.
Non. Marc Cialom. Il y a un film qui a été tourné en 69.
Ah oui, c'est le fameux, c'est le... Oui, excuse-moi. Ouais.
Et qui a été restauré, qui est sorti en salle en...
35 ans plus tard.
Oui. Oui, on en a pas mal, justement, c'est une référence qui vient parce que... Ah bah oui, ça, c'est vachement intéressant, moi j'aimerais. Ton père, comment il a...
La différence entre les deux exemples qui essayent de David de coudre, de tisser un lien, moi je trouve, oui, le lien existe, sauf que là, dans le cas de Marc Cialom, c'est une autocensure, puisque c'est lui-même qui a décidé que son film, il doit rester dans le placard.
Pas du tout.
Non, qu'est-ce que tu racontes? Chris Marker qui a dit...
Bah, non.
Non.
Bah, allez, bah, mais non. Vas-y, dis-nous.
Alors, raconte.
Non, c'est un film qui... c'est un film qui n'avait pas de producteur, qui a été tourné par mon père en tant que première étape de travail. Donc, il le tournait dans le but de trouver un producteur par la suite. Alors, il a fait tout un tournage, il a fait un montage sur copie de travail... Et pour lequel du coup il n'y a pas eu un développement global du film sous forme d'une continuité. C'est resté comme ça, en copie, en petits morceaux collés les uns aux autres. Et de toute façon, c'était pas ce qu'il voulait faire. C'était une étape pour lui, ce film-là. Et ce film, il a cherché et pas trouvé de producteur. Il l'a montré effectivement autour de lui dans l'entourage qu'il avait à l'époque. Du coup, il y avait Chris Marker qui lui avait prêté la caméra pour tourner. Donc, il y avait Chris Marker dans la salle quand il a fait les projections. Il y avait d'autres gens, et puis il y avait Jean Rouch. Enfin, en tout cas, ça, il n'y a pas eu de retentissement, il n'y a pas eu d'envie de voir ce film exister à l'époque. Par ces gens-là, par d'autres. Et il n'y a pas eu, et moi, je pense que c'est à cause d'une thématique qui était décalée à l'époque. C'est-à-dire qu'il parlait en 69 de l'histoire de l'immigration et de l'exil d'un homme algérien qui arrivait en France sur les traces de son frère qui était accusé d'un assassinat et qui venait essayer de dépêtrer pour la famille ce qui s'était vraiment passé. Et le film était vu sous l'angle... de la transculturation, de qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je change de pays. Et c'était quelque chose peut-être pour lequel l'auditoire n'était pas préparé. On pouvait parler peut-être de l'exil et de l'immigration sous l'angle politique, du coup virulent, ayant quelque chose à défendre. C'était pas le cas de ce film-là, qui était un film qui était introspectif et qui parlait de la métamorphose intérieure de quelqu'un qui est au frottement entre deux pays. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi quand je suis en train d'immigrer, quand je suis en train de m'exiler, quand je suis en train de changer de culture? Et voilà, qu'est-ce qui se joue comme conflit? Et est-ce que je vais devenir un autre? Et est-ce que l'arabe que je suis manque? Est-ce qu'il va commencer de manquer?
C'est fort, oui.
Donc c'était quelque chose qui était différent de ce que peut-être le public avait besoin d'entendre à l'époque.
Oui, on était sur l'assimilation, on n'était pas sur...
Oui, c'était déjà énorme d'intégrer ça.
Sauf que là, on n'est pas dans le même cas de figure. C'est pour ça que j'ai appelé ça de l'autocensure, puisque le réalisateur, c'est lui-même qui a décidé que son film s'arrêtait là, à partir du moment où Chris Marker, le prêteur de caméra, et ceux qui ont eu un peu l'écho de ce film, au premier visionnage, ils ont décrété le film non intéressant. Donc il l'a mis au placard. Là, on est dans un autre cas de figure.
En tout cas, qui est quand même une souffrance.
Cinéma qui prétend changer la donne dans son propre pays. Qui veut ne pas par conscience, il le dit, nous sommes conscients et on refuse de servir le même plat traditionnel.
Oui,
c'est-à-dire le folklore.
La différence, c'est que lui, il avait une équipe de... Il y a les gens qui voulaient que ça sorte et qu'en face, on a dit non. Mais c'est vrai que sur la souffrance de ne pas être suivi, ça lui arrivait après, par exemple. Ce genre d'histoire de... Que les gens disent que son travail était nul et que plus personne n'en voulait. C'est un truc qu'il a traversé, mais après. Sur ce film-là, c'est un... c'est une interdiction d'État alors qu'on attend ce film. Donc c'est vrai que c'est... Mais pour un cinéaste, oui, c'est... Les films doivent être vus.
Et tu as bien fait, David, d'essayer de coudre un lien comme ça, parce que les deux circonstances, on a Sophie, grâce à Sophie et Léa Morin, grâce à elle, que le film a pu ressusciter 45 ans après. Mmh. Et c'est pour le film, pour le cas de figure du film Lettre à la prison de Marc Cialom, c'est grâce à sa fille Chloé qui, le jour du déménagement, d'un de ses nombreux déménagements, qui voit la bobine ou les bobines en train de partir dans la poubelle. Et c'est elle qui...
Ça, c'est la légende, oui.
Ça, c'est la légende. C'est pas en tout cas, il voulait s'en délester, il voulait plus voir ce truc. Et c'est Chloé qui empêche ça parce que ça faisait partie
de
son...
C'est la légende. En réalité, voilà. Simplement, j'ai découvert un lieu où je pouvais montrer et voir. Enfin,
mais tu connaissais bien cette bobine.
Et ce lieu-là, c'était le polygone étoilé. Mais je le voyais depuis mon enfance, ces bobines.
Et donc, t'appartenais quelque part.
Personne n'a parlé de les jeter à la poubelle, simplement. On ne savait pas où les regarder.
Voilà.
Oui, qu'il y a une forme. Au Maroc, c'était aussi le problème.
Ouais, c'est une métaphore.
C'était aussi le problème, c'est quand tu as de la pellicule, où regarder. Nous, on a cherché un temps hallucinant, un projecteur 16 mm, impossible. T'as des films en 16, tu peux pas les regarder. La plupart des cinémas qui restent, donc il n'y en a pas des masses, n'ont plus d'appareils de projection 35 ni de projectionniste. Donc en fait, il y a aussi ça. Tant que, il y a un moment, tout ça, c'est des matières. On les stocke dans des mauvaises conditions. Enfin, dans mon film, on voit le grenier où sont stockés les positifs de Derkaoui. Tu vois, c'est le vent, le soleil, la pluie, en fait, parce que ça se dégrade, ça se décolore, enfin. Donc c'est aussi ça, quoi, c'est des espaces de stockage où les montrer, avoir le bon matériel, numérisé ou pas, restauré ou pas, c'est des vraies questions, en fait. Parce que les films deviennent invisibles, en fait.
Exactement.
C'est-à-dire que tu peux plus les voir.
Donc quel est le rôle, moi ce qui me pose la question là, quel est le rôle des conservateurs, quoi, puisque ces centres de conservation qui coûtent énormément... qui passe dans le budget de l'état de la culture, ils conservent mais
ils ne montrent pas.
Déjà, dans quelles conditions, voilà, dans quelles conditions ils sont conservés, parce que de toute façon, une pellicule qui dure une certaine durée de vie, elle est périssable, mais en plus, on ne les voit jamais. Et est-ce que les chercheurs, pour autant, dans le monde du cinéma, est-ce que pour autant, ils ont cette capacité de montrer, ou au moins de diagnostiquer qu'est-ce que ça contient, ces films, jusqu'où, si ce n'est pas, par exemple, le miracle qu'un réalisateur s'intéresse au portrait du réalisateur, ou du cinéaste lui-même. Donc c'est une affaire...
C'est une affaire collective. C'est un choix politique, en fait. De montrer des images ou pas, en fait. Hein, c'est un choix de se dire, bah, tiens, on met de l'argent à conservation dans le patrimoine. Là, le Maroc, il a à faire face à la fermeture des salles, donc il travaille sur les salles, il travaille aussi sur la production, parce qu'il faut faire émerger de la création. Il est sur faire vivre la profession, donc accueillir des tournages étrangers. Il est sur d'autres questions, en fait. La question du patrimoine... Nous, en fait, avec Léa, le travail de Léa, donc avant le Derkaoui, parce qu'elle avait déjà travaillé sur les Buanani, elle a vraiment initié, avec l'atelier d'observatoire, ils ont vraiment travaillé au Maroc sur cette question. Et là, à l'heure actuelle, le centre cinématographique marocain fait des promesses, mais pour l'instant, il n'y a rien. Fait des promesses que oui, c'est bien, c'est super, oui, il y a un intérêt. Alors l'ancien directeur, Nourdine Saïd, il avait commencé à numériser tous les films des années 60. Il avait fait une première vague de numérisation, de DVD, tout ça. Et il a... Bon, c'est plus lui le directeur. Et le nouveau, au début de son mandat, il n'en avait que faire de cette idée-là. Maintenant, ça change un peu parce qu'il y a eu Berlin. Donc, et tout le monde, d'un coup, découvre Derkaoui. Parce qu'il y a toujours la question que quand finalement ça passe par l'étranger, ils se disent « Ah, il y a un intérêt aussi
bah, ». C'est vrai que le festival aujourd'hui, ils ont pris beaucoup de place, c'est la production.
Alors, Mohamed de l'atelier de l'Observatoire, il me disait « Au Maroc, tout le monde veut voir le film, tout le monde adore le film, tout le monde est et énervé parce que ça passe à l'étranger et pas dans le pays, et comprend pas et tout.
D'où dernièrement au festival d'étrangers.
Oui, mais qui était pour les professionnels et pas pour le grand public, et donc tout le monde voilà, veut voir maintenant au Maroc le film. Bon, bah, c'est bien, ça crée du désir, mais pour les années, ça va.
Pour me mettre effectivement en train d'écrire ce film. Ici, on décèle. Dans ce film, des positions, mes positions contre la religion, contre ce qui fait que le monde actuellement, le monde arabe, musulman, est en effervescence. Et on verra que je vais contre-courant. Ça m'est arrivé en 1974, j'ai vécu ça. En toute lucidité, en toute science, j'ai payé ce qu'il fallait payer. De quelques événements sans signification et jugés inopportuns pour le contexte dans lequel vit le Maroc. Vous incitez tout le monde, à l'instar de votre personnage principal, de tuer le chef, parce qu'il est injuste. Et le chef, nous savons qui c'est. C'est celui dont vous ne montrez jamais la photo, l'image. C'est pour cela que nous interdisons votre film.
Bah, dans le film, on déroule plusieurs vraies raisons, parce que dans l'extrait que tu as montré avec Rimou, il dit autre chose. À chaque fois,
il y a des raisons.
Puis quand tu vois le film, tu en trouves plein, quoi. tu vois, c'est des... Tout est... Enfin, il y avait... Ce visage-là du Maroc n'était pas... moi, montrable. C'est ce qu'il dit, inopportun, je pense que c'est ça que ça veut dire.
C'est comme si le cinéaste, pour donner une image, serait ce petit garçon qui pose la question insolente. Devant l'assemblée, il y a le père, la mère et toute la famille réunie, le grand-père, et qui pose la question insolente qu'il ne faut pas poser.
Qu'est-ce qu'il y a ?
J'ai poussé ma tête sur le micro.
Je me dis, ce film, il m'a coûté quand même beaucoup. Il m'a coûté une traversée du désert, il m'a coûté une... C'est cette peur-là d'avoir... à répondre à des questions pour lesquelles je n'ai pas de réponse, à relire tous les commentaires, toutes les explications du Coran, du Hadith, et de la Sunna et de tout ce que les ulama, les savants ont matière coranique et en matière de religion, pour pouvoir répondre à des questions pareilles.
Inspirez, ciseaux, canule.
Et aujourd'hui, le film, tu penses qu'il peut avoir un impact politique au Maroc ?
Là, si tu veux, la télévision nationale marocaine veut acheter le film. Mais à l'heure actuelle, on ne sait toujours pas si c'est pour l'avoir comme aider Mustapha, enfin tu vois, un geste comme ça pour lui, mais on ne sait toujours pas s'ils vont le diffuser et s'il va être raboté pour pouvoir passer sur une télévision marocaine, parce que ils ont un gouvernement islamiste, donc sur les questions
Plutôt, j'ai envie de dire, de mœurs, ça peut poser problème. Je sais pas.
Et parce qu'il alors, a, on peut pas sortir au cinéma.
Si, il peut sortir au cinéma, oui. Mmh. Mais il y a peu de salles, mais il peut. L'atelier d'observatoire va faire des projections un peu particulières dans le Maroc, il y a des festivals, donc il va tourner.
Mais toi, tu penses qu'il peut être reçu comment?
Je pense qu'il y a une partie du Maroc qui a envie de voir ça, qui est super contente, qui est fière, qui. Pour qui c'est. Voilà, c'est. C'est évident qu'il faut le montrer, et il y a une partie du Maroc qui trouve ça inconvenant. Donc, qui va gagner
Et la vie des ciné-clubs, elle est forte au Maroc, j'imagine.
Avant, maintenant,
oui. Ouais.
Après, il y a plein de petits lieux, type l'Observatoire ou d'autres. C'est assez vivace dans. Sur tout ce qui est art contemporain, il y a pas mal de lieux comme ça qui montrent, qui font des rencontres, des colloques, des choses comme ça.
Donc c'est plutôt un public pointu alors.
Ouais.
Et c'est financé
les facs, mais non, il n'y a plus les ciné-clubs qu'il y avait avant. Il y avait un vrai réseau vachement intéressant.
L'Observatoire, c'est financé comment par exemple?
Des fondations, ils vont chercher de l'argent un peu partout, dans le monde même. Ce sont des partenariats. Moi, je ne suis pas à l'Observatoire, donc je ne peux pas répondre quand même super bien à la question. Non. Mais je pense que c'est des fondations, des trucs du genre. Je sais, faudrait leur demander, là, j'avoue. Je sais pas.
Et toi, Wahib, à ton avis, va être reçu comment au Maroc, le film?
Aujourd'hui? Sans signification. Sans signification, parce que je pense que le temps est passé, quoi. On est passé à autre chose. Ça va trop vite, aujourd'hui. Le fait de recevoir un coup de poing, tout ce... Il dure 90 minutes, plus de 90 minutes.
Non, le film, ça fait 73
minutes. 73 minutes. J'espère qu'il finira son film. En tout cas, c'est ce que j'espère.
Parce que son nouveau film.
Oui, parce que lui, il dit que c'est le dernier film. Je veux le finir, je veux le finir. Et je pense qu'il va le finir. C'est quand même quelqu'un qui se bat toute sa vie, un homme comme ça, il a dédié sa vie à quelque chose. Donc je suis sûr qu'il va y arriver, et grâce à vous d'ailleurs, Sophie, vous n'avez pas fait tout ce travail pour qu'il ne finisse pas son film, c'est sûr.
Ah bah, nous,
d'ailleurs,
on a toujours
vous
dit,
avez participé.
Ouais, on a toujours dit à Moustapha, s'il y a des possibilités, on te suit.
Parce que c'est quoi finalement le but du cinéma? C'est de toucher son public, les gens, sa société aujourd'hui, et pas 50 ans après, quoi. On ne fait pas du film d'histoire, on ne fait pas...
Mais parce que tu penses que c'est plus actuel, les questions qu'il pose?
Non, actuel parce que c'est de l'école du cinéma, oui, ça questionne des principes de l'histoire du cinéma, etc. En regardant ce film aujourd'hui, moi, c'est ce qui m'a semblé, c'est-à-dire le contrepoint. Oui, ça interroge tout. On attend quoi dans ces 70 minutes du film? On attend cette dernière séquence, en fait, où le mec, il lui lâche carrément ce qu'un prisonnier a envie de dire à un équipage de télévision, à leur dire, mais allez nous foutre la paix, quoi. Avec vos bazars, etc. Parce que ce que moi j'ai fait dans ma vie, je suis là, je paye, et j'ai réfléchi sur ma condition. Et si tu veux voir ma condition, il faut que tu la vives. Mais le cinéma ne peut pas être à son... Mais par contre, ce film-là, ce film de Drakaou, une affaire d'un meurtre, un fait divers, qu'est-ce qu'il en tire ? Il en tire ce coup de poing à la fin, dans la gueule de la caméra, quoi. Le gars qui lui dit, si je devais le refaire, ben je le referais, ce crime-là. Parce que, en fait, maintenant, je me sens, même en prison, en fait, je me suis enfin libéré de ce cauchemar, de ce patron, de ce monstre, quoi, qui lui prenait 3 jours de salaire pour se payer sa cartouche de cigarette, sa bouteille de whisky. Merde, quoi, il travaille 3 jours pour la gueule du patron. Donc, et alors, Mustapha Drakaoui reçoit ça. Et il le reproduit en fiction avec un comédien qui n'est pas le vrai homme de la situation. Il le reproduit pour dire ça, pour dire tout simplement ça, que le cinéma est capable aussi de montrer son incapacité. Et ce sont très peu de gens qui peuvent recevoir ce coup de poing, à part des gars qui ont du temps à perdre. Pour être capable de recevoir un coup de poing dans la gueule. Pourquoi le cinéaste, il doit toujours sortir les gants en haut, là ? Non, mais il faut aussi qu'il sorte. Et c'est ça le geste, en fait. On parlait de ça tout à l'heure, sur le rôle du comédien, etc. Qu'est-ce que c'est, finalement ? C'est de sortir avec des millions en poche ? Non, c'est de faire réussir un film. Enfin,
et de se faire respecter en tant que personne.
Bon, après, non, mais là, on ne touche pas à l'intégrité de la personne, c'est clair. Mais après, voilà, quelles sont les leçons qu'on en tire ? Parce qu'on sait très bien, on s'est engagé dans... on s'est engagé perte et profit, quoi. Il n'y a pas de profit, c'est très rare. Mais en tout cas, les pertes, on doit les endosser. Mais on doit en tirer des leçons. C'est ça, quoi, la leçon
du... Oui, il y a vraiment le truc de partir avec des bonnes intentions comme un bon cinéaste et puis d'aller vers le ratage total de sa bonne intention. Et c'est assez juste ce que tu dis, Wahib, que quand même il y a quelque chose qui est dit de l'ordre tu dois vivre ma vie, quoi, pour être légitime aussi. Enfin, toutes tes bonnes intentions, elles vont pas réellement là où elles devraient aller. Et il y a aussi dans cette fin le fait de faire aussi du cinéma parce qu'on a on n'affronte pas sa propre violence. Donc on fait endosser à l'autre la violence. On fait endosser l'acte de violence par l'autre parce que nous, on fuit cette propre violence ou on ne l'assume pas. Et puis il y a tout un truc aussi qui est dit sur le fait de comment on finance un film. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir de l'argent ? Donc il lui dit, tu t'es prostituée pour avoir cette caméra. Donc en fait, il y a quand même des choses assez... sur la corruption aussi. Il y a le ratage, mais il y a aussi la possibilité d'être corrompu en faisant du cinéma. De se corrompre soi et d'être corrompu par l'autre. Puis il y a toujours le dada de Derkaoui sur le pouvoir. Les gens qui sont puissants et qui peuvent non seulement avoir l'argent et les femmes, et donc usurper à ceux qui n'ont ni pouvoir ni argent leur vie et leur amour aussi. Enfin, il y a toujours ça dans ce film.
Qui a été fait ? Tout ce qui avait été en gestation, je dois le reprendre rapidement. C'est aussi... une question de se décider à se débarrasser.
Oui.
De bien tes scènes, de bien tes propos, de bien tes convictions.
Toutes les feuilles de ton cahier te rappellent que ce sont encore des pages à écrire.
Oui. Cette découverte par moi que... en fin de compte, c'est une lutte qui s'est engagée entre moi et le temps. longtemps. Et une lutte dans l'issue. Clair pour moi. C'est le temps qui est vainqueur.
Est-ce qu'on a d'autres choses à dire plus fort que ça?
Non, 1h20.
C'est ça, ce geste, Sophie, je le fais depuis 12 ans. Tu as une pile ici de carnets, Sophie. Tu vois, pour ça qu'il me faut une bonne plume, du bon papier, et quelqu'un pour m'aider. Histoire de l'autre. De la tombe, de la poussière dans les yeux. De pourquoi mourir, pourquoi ne pas rester en vie, pourquoi. Et dire que pour ce film, pour Famille des Gères, pour le film Famille des Gères, l'enjeu est justement de se permettre de dire que il a peur que la poussière, quand il sera enterré, il a peur que la poussière ne. Il lui tombe dans l'œil, dans les yeux, ou qu'une pierre ne lui fracasse pas le nez, ça si. Parce que, en religion musulmane, un mort, lorsque on est mort, on ne fait plus attention, on n'a plus de conscience à cela. Notre âme, qui est en même temps la conscience et en même temps l'essence, l'essentiel de la vie, est parti déjà, n'est pas sensible, qu'on comprenne que c'est de l'esthétique, que c'est de la sensation, que c'est de au niveau justement de l'âme que ça se passe, et non pas au niveau très bien de l'intellection. C'est autre chose. Et c'est ça ce que je dois travailler. Ma gestation consiste justement en cela. Et j'ai de la résistance. Comme je t'ai avoué, comme j'essaie d'analyser, à cause de cela.
Est-ce que tu as peur de mourir?
Oui, beaucoup. Pas seulement j'ai peur de mourir, mais je me dis vraiment à quoi que ça sert de mourir. Pourquoi Dieu a fait cette création splendide qu'est l'homme, dont moi, elle, il termine le truc par la mort. Ça, je ne comprends pas. Et c'est en fait ça ce que je dis dans ce film, enfin.
Et Marc, comment il appelle ce dieu injuste?
Le bœuf cosmique.
Le bœuf cosmique. Pareil, Marc, il a horreur quand il parle de Dieu. Et de sa création. La nature, pour lui, c'est notre pire ennemi. Elle nous piège et elle se joue de nous. La nature. Et le Dieu est fondamentalement injuste. Parce que s'il était juste, d'après Marc, il ne nous enlèverait pas ce qu'il nous donne. La création.
En même temps, il s'appelle Marc.
Oui, donc on est sur des idées proches. Alors. Moi, tout à l'heure, tu as dit un truc, Wahib, par rapport au... Moi, ce que je trouve intéressant, le fait de montrer aussi le documentaire qui n'est pas que le film de 1974, c'est que dans le documentaire, on voit Derkaoui maintenant. C'est pas juste une archive d'un temps et que c'est super, que ça s'est fait en 1974. C'est aussi maintenant de voir l'homme cinéaste et où il en est dans ses questionnements. Et comment, justement, le mettre en parallèle. Quand tu connais le film de 1974, voir tout ce cheminement, toute cette vie de cinéaste et où il en est et comment c'est si proche en fait de 74, son état d'esprit et de ses motivations. C'est pour ça que je trouve que c'est intéressant, tu vois, que d'être aussi dans le temps présent et de faire des films maintenant et que lui réussisse à faire encore un film avec... Et ça, voilà, dans mon film, on le voit qu'il y a quelque chose à faire encore au temps présent. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu as perdu de ton pouvoir physique, que tu es isolé, que tu es marocain, que tu es âgé, que tu n'as pas encore quelque chose à dire, et à montrer et à faire. Tu peux encore faire et tu peux encore dire.
C'est grâce à vous, hein, Sophie.
Non, mais ça, c'était peut-être pas...
Même si tu n'es pas là maintenant, ce soir, avec un petit repas, je suis sûr que...
grâce à moi et bien d'autres, le monde s'agrandit de gens qui ont envie d'entendre. Ça, c'était une stratégie. Moi, je savais que si on montrait les films de Mustapha, aussi, ça créerait... tu vois, ça créerait... Qu'il fallait attaquer la question de...
Du collectif.
Oui, oui. De... Voilà, que Derkaoui, c'était aussi beaucoup de films et que ça aiderait à faire... Voilà, que c'était un ensemble de choses et l'atelier d'observatoire, ils ont des idées de faire des expositions, il y a une publication, donc si tu veux, c'est aussi à partir d'une matière. Il y a plein d'autres créateurs qui travaillent à partir de ça, tu vois, ça se prolonge, ça s'arrête pas, c'est pas
possible. En train de farfouiller à main nue dans ce tas d'excréments que peut devenir le devenir de ce monde. Jibolaska, JIS, FBI, CIA, je retourne la circulation sur la foule. Nta foot, ouqaf nta, moulimni foot, moul shmal mout, chnqouf, yakhrab likoum le mella. بوش وغير بوش هم اللي غادي يوريونا القبلة تشو تشو أرى لي الحجر
هاتو